Bonjour et bienvenue à ce cours d'initiation au code pour les vrais débutants. Je suis Stéphanie Hertrich et je suis développeuse chez Microsoft. Ensemble, on va apprendre à développer des applications. On va commencer par coder un petit jeu qui nous servira de fil rouge pour l'apprentissage des bases de la programmation. On verra ce qu'est une variable, on verra ce qu'est un type, à quoi servent les boucles, etc. Pour cela, on va utiliser le langage de programmation C#. C'est un langage orienté objet. Je vous expliquerai tout à l'heure ce que ça veut dire. Sachez que tous les principes qu'on apprendra durant ce cours seront valables également pour les autres plateformes et les autres langages de programmation. On va utiliser un outil de professionnel du développement qui s'appelle Visual Studio. Vous pourrez télécharger une version gratuite qui s'appelle Visual Studio Express et qui nous permettra de mettre en œuvre ces applications durant le cours. Dans le dernier module, vous verrez comment télécharger cette application et comment l'installer sur votre poste de travail. On travaille sur un OS Microsoft, donc qui est Windows 7, Windows 8 ou Windows 8.1, mais vous pouvez aussi utiliser une version virtualisée de cet OS-là sur Mac par exemple. Alors, quand je vous disais que ce cours était réservé aux débutants, effectivement, il est destiné à des personnes qui n'ont encore jamais tapé une seule ligne de code. On va vraiment partir de zéro dans ce cours. L'objectif, ce n'est pas de faire de vous des développeurs à la fin du cours, mais plutôt de vous permettre de tester ce que ça veut dire que d'être un développeur, d'écrire ses premières lignes de code, d'utiliser un outil professionnel, de comprendre les principes élémentaires de l'algorithmique. De créer ses premières applications, hein, de bureau ou pour smartphone, et de réaliser que c'est à votre portée de faire ce genre de choses. Si, si, je vous l'assure, même vous. Et également, c'est un tremplin qui peut vous permettre d'aller plus loin. Par exemple, de suivre des cours pour débutants sur des sites comme Open Classroom, ou bien d'intégrer des cours accélérés, des accélérateurs pour apprendre le code, comme par exemple Le Wagon ou d'autres. Ça peut vous permettre de savoir si c'est le genre de choses qui vous intéresse, de vous intéresser davantage à la technique. Peut-être que vous avez envie de changer d'orientation professionnelle. Peut-être que vous avez un projet, une idée métier et que vous avez envie de la mettre en œuvre vous-même, de la tester et de la coder, en tout cas pour commencer. Peut-être aussi vous avez envie de mieux comprendre vos collègues qui sont plus techos et que vous en avez assez, qui vous baladent ou qui vous regardent de haut quand ils vous parlent de code. Donc ça aussi, ça peut vous permettre de mieux comprendre les problématiques des développeurs et de mieux comprendre leur langage et leur culture. Pour toutes ces raisons et plein d'autres, ce cours est sûrement fait pour vous. Alors on se trouve dans le module 1. Donc je vais vous présenter le jeu, je vais vous faire une petite démo et puis on va se préparer au développement, c'est-à-dire démarrer Visual Studio et puis créer notre premier projet. Je vais vous faire la démo du petit jeu qu'on va mettre en œuvre. C'est vraiment quelque chose d'ultra simple, hein. Ça s'appelle le nombre mystère. Donc l'ordinateur va choisir aléatoirement un nombre entre 1 et 20 et l'utilisateur doit le deviner. Donc l'idée, c'est de créer différentes applications qui vont devenir de plus en plus complexes. Et on va commencer par une version ultra simple, sans interface graphique du tout. Donc vous voyez dans les slides un screenshot de chacune des applications de bureau. Mais je vais vous en faire la démo, ce sera quand même plus pratique. Voici la première version de l'application, ultra simple, je vous l'ai dit. Je choisis un nombre, donc entre 1 et 20, je vais commencer par 10. Donc l'ordinateur me dit que c'est moins, il m'aide, hein, il est sympa. Je vais choisir 5. Ah bah j'ai trouvé, c'était 5. Ensuite, on va passer à une version plus évoluée avec une interface graphique. On va utiliser ici le framework WPF qui va me permettre de rajouter des contrôles graphiques. On voit ici des boutons pour valider, pour créer une nouvelle partie, et puis des champs de saisie pour faire les différents essais. Si je tape 10, je clique sur valider, il me dit c'est plus, etc. Ensuite, je vais faire appel à Michel Rousseau, qui est le designer de notre équipe, et qui va reprendre ce projet et qui va en faire une nouvelle application redesignée. Voici ce que ça donne. C'est quand même autre chose. Donc en fait, on ne va pas du tout modifier le code source. C'est avec un outil pour designer, enfin pour intégrateur, je dirais, qui s'appelle Blend, qui va nous permettre en fait de retravailler l'interface graphique du projet sans modifier les sources. Voilà, donc il y a des petits changements de couleur sur les boutons. Le champ de saisie nous permet d'avoir une police de caractère plus grande. Il y a des animations, vous voyez ici, un fond d'écran, etc. Et puis des couleurs qui vont bien ensemble. Ça, c'est pas moi qui les ai choisies, c'est Michel. Il va nous montrer comment réaliser ça. Ensuite, on va passer à la version pour smartphone. Une première version qui est avec le design par défaut. Bon, bah pareil, hein, on peut rentrer un nombre. Allez, je retape 10. Il va nous dire à nouveau si c'est plus ou moins. Et on va réutiliser les mêmes assets, en fait, hein, les mêmes composants graphiques et la même charte, je dirais, pour réaliser la version redesignée. Voilà, on la trouve ici. Je vais la lancer. Donc ici, on se trouve dans le simulateur Windows Phone. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir un device pour développer pour Windows Phone et pour coder des applications. Voilà, donc c'est quand même plus sympa. On se retrouve avec la même philosophie que dans l'application WPF redesignée. Ça, c'est pour le jeu Le Nombre Mystère. Ensuite, on va passer à une autre application qui est une petite application de dessin au doigt pour Windows Phone également. Donc, je peux choisir une couleur et faire des petits dessins. Voilà. On va apprendre à coder cette application. Sachez que je suis partie des sources d'un projet qui était disponible sur le site Codeplex. Codeplex est un site sur lequel les développeurs, c'est un site communautaire en fait, sur lequel on peut partager du code source et des projets. Donc, j'ai trouvé celui-ci que je l'ai trouvé assez sympa et il est vraiment très très facile à réaliser, à reproduire. C'est ce qu'on fera ensemble dans la dernière application qu'on développera dans ce cours. Voilà pour la démonstration. On va pouvoir passer à l'agenda. Donc on est ici dans le premier module, introduction et principes élémentaires de programmation. Avant de commencer à développer l'application Le Nombre Mystère, on va apprendre quand même quelques principes de base. Et vous allez voir que je vais vous proposer des petits exercices. Vous serez mis en situation à chaque fois. Je vous explique les concepts, les principes d'une notion nouvelle. Et c'est vous qui les mettez en pratique dans l'application pour que vous puissiez apprendre à la coder vous-même. Dans le module 2, donc on va démarrer cette application une fois qu'on a appris les bases, donc le nombre mystère en mode console. Dans le module suivant, on va rajouter l'interface graphique. Dans le module 4, on va passer à l'application nombre mystère pour Windows Phone, puis l'application Fingerpaint pour Windows Phone. Et enfin, dans le module 6, c'est en fait un module que vous devez suivre au préalable pour installer les outils de développement. Voilà, en téléchargeant Visual Studio Express, qui est donc gratuit. On va commencer tout de suite, on entre dans le vif du sujet, on va se préparer au développement et pour ça, on va lancer Visual Studio. Alors, si vous n'avez pas encore installé Visual Studio Express, vous pouvez suivre le module 6 où vous avez toutes les étapes vraiment pas à pas pour l'installer facilement. Et sinon, en fait, il vous suffit, hein, si vous voulez aller plus vite et que vous en sortez, normalement, ça devrait le faire. Il vous suffit de taper dans votre navigateur www.visualstudio.com. Vous allez dans la section Téléchargement et vous sélectionnez la version Express, Microsoft Visual Studio Express 2013 pour Windows Desktop. Voilà, vous cliquez sur Installer maintenant, vous suivez les différentes étapes et Visual Studio Express s'installera sur votre machine. Ensuite, on va le démarrer, ce Visual Studio. Alors, la petite astuce, c'est que comme le nom Visual Studio Express pour Windows, blablabla, c'est un petit peu long. Ils l'ont renommé en VS Express. Ça veut dire que si vous le cherchez, par exemple, sous Windows 8, alors ce que vous devez réaliser pour le trouver, c'est la touche Windows plus S. Ça va vous permettre de faire apparaître la zone de recherche. Vous tapez non pas Visual Studio, mais VS. Express, voilà, ça va apparaître directement du coup normalement. VS Express 2013 pour desktop. Je clique dessus et ça va me permettre de démarrer mon application. Ensuite, je vais créer mon projet. Comment je fais pour ça? Je vais sur Fichier, Nouveau projet. Et là, je vais avoir un ensemble de choix à ma disposition. Ce qu'on souhaite faire, nous, c'est une application en ligne de commande, donc en mode console sans interface graphique. Donc pour ça, on va se positionner. Et en C#. Du coup, on va se positionner sur Visual C#, ça c'est important. Ensuite, Windows. Et là, je trouve Application Console. Ensuite, je vais donner un nom à mon projet. Donc, je vais l'appeler Say My Name, parce que ça va être pour s'entraîner un petit jeu qui joue sur le nom et sur l'âge de la personne. Je vais modifier l'endroit dans lequel Visual Studio va stocker le projet et les sources. Donc, je vais Vous pouvez laisser l'endroit par défaut en fait, hein. Il va le stocker sous l'utilisateur courant, sous Visual Studio Project. Moi, je préfère le mettre ailleurs pour le retrouver plus facilement. Donc, je vais le mettre dans Projet. Et ensuite, je dois préciser le nom de la solution. Par défaut, il a mis le même nom que le nom du projet. Mais quelle est la différence entre un projet et une solution? En fait, un projet, pour faire simple, un projet, ça correspond à une application. Et vous pouvez avoir plusieurs applications, donc plusieurs projets, dans la même solution. La solution, c'est ce qu'on va ouvrir en premier dans Visual Studio. C'est comme si vous aviez un répertoire d'applications, si vous voulez. Donc, en solution, vu que je vais avoir plusieurs applications, moi, dans le cours, mais que je vais toujours ouvrir la même solution, je vais l'appeler cours débutant. Je clique OK. Et Visual Studio va du coup m'ouvrir la solution. Je la vois apparaître ici dans l'explorateur de solutions, en haut à droite. J'ai solution cours débutant avec dedans un projet qui s'appelle Say My Name. Alors vous voyez, l'interface de Visual Studio est assez dense et encore on ne voit pas grand-chose là. Il y a pas mal de barres avec des boutons, des actions, différentes fenêtres. Donc ne paniquez pas. Vous n'avez pas du tout besoin de connaître la totalité des fonctionnalités possibles de Visual Studio pour développer une application et pour suivre ce cours. Donc pour simplifier, je vais vous présenter les zones principales qui vous intéressent. Voilà, dans Visual Studio, vous allez avoir d'abord l'explorateur de solutions que je viens de vous montrer, donc le Solution Explorer en anglais. Dans cette partie-là, dans cette fenêtre, vous allez avoir la liste des fichiers du projet, la liste de vos projets et votre solution en cours. Donc c'est ce qui va vous permettre de naviguer entre les différents fichiers code source de vos projets et vos différents projets. Donc ça, c'est important. Ensuite, à gauche, on n'en a pas encore parlé, mais vous verrez apparaître le code source du fichier qui est en cours d'utilisation, celui que vous avez sélectionné dans le Solution Explorer. Donc ça, c'est important. Et ensuite, une autre fonctionnalité super importante, c'est les boutons de compilation et de démarrage d'application et d'arrêt. Donc, c'est le petit bouton Start. Ici, hein, il y a comme un petit play. Donc, quand vous cliquez sur ce bouton, Visual Studio va compiler votre code et exécuter l'application. Un raccourci clavier pour cette fonctionnalité, c'est F5. Une fois que vous aurez démarré, vous aurez un petit bouton Stop à la place. Et voilà, pour arrêter votre application, tout simplement, vous cliquez sur le bouton Stop ou vous faites Shift F5. En gros, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour le moment. Si l'on se penche un petit peu davantage sur l'anatomie d'une solution dans Visual Studio, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais là, on le voit de manière un petit peu plus zoomée. Donc, je vais avoir la solution qui est une sorte de répertoire qui contient des projets. Et dans cette solution, je vais avoir un projet ici par exemple qui est Say My Name. Et dans ce projet, on va avoir l'ensemble des fichiers qui constituent le projet, donc des fichiers code source. On va avoir, si on a plusieurs projets, on va avoir projet 1 en dessous un ensemble de fichiers, comme on voit ici à gauche. Projet 1, fichier 1, 2, 3, 4, 5, 6. On aura sous la solution un autre projet 2 avec d'autres fichiers sources qui correspondent à ce projet 2, etc. Alors on a toujours un seul projet actif dans Visual Studio. C'est celui qui va être démarré, compilé et démarré quand vous faites F5 ou quand vous cliquez sur Play. Pour modifier ce projet, si vous en avez plusieurs, il suffit de le sélectionner, de faire un clic droit et dire Set as Startup Project. Et il apparaît en gras. On le verra tout à l'heure quand on en aura plusieurs. Ça ne sert à rien que je vous le montre pour l'instant vu qu'on n'en a qu'un. Pour le moment, dans notre projet Say My Name, on n'a pas grand-chose. On va avoir un fichier qui s'appelle programme.cs, qui est en fait .cs pour C# en fait. Et c'est ce fichier qui constitue le code source de notre projet Say My Name. Pour l'instant, dedans, il y a tout ce qu'il faut pour créer une application console vide. Il y a d'autres choses également dans le projet, mais on ne va pas s'en préoccuper pour le moment. On va donc s'intéresser au code, enfin. Le code se trouve dans le fichier programme.cs, comme je vous l'ai dit. Voici ce qu'on va trouver dans le fichier programme.cs. Vous pouvez double-cliquer dessus dans Visual Studio. Je double-clique sur programme.cs et voici ce que j'obtiens. Alors, vous pouvez agrandir ou enfin zoomer ou dézoomer sur le code source. Donc moi, je vais le rendre un petit peu plus gros pour que vous voyez quelque chose. Voici ce qui se trouve dans le fichier programme.cs. Donc on le voit dans la fenêtre des sources. Je vais avoir un ensemble de using. Pour l'instant, on s'en fiche complètement. On va les ignorer. Je vais avoir un namespace qui est précisé. On s'en fiche aussi. Je vais avoir un class programme. On s'en fiche aussi. Et puis, je vais avoir un static void main avec des parenthèses et des trucs entre. On s'en fiche aussi. Sachez simplement que les instructions pour créer votre application, il faudra les taper entre les deux accolades du main. Pour l'instant, il n'y a rien du tout entre ces deux accolades. Alors, devinez du coup ce que va faire votre application pour l'instant. Pour le savoir, il vous suffit de cliquer sur le bouton démarrer ou de taper sur F5. Je vous avais dit que je vous donnerais des petits exercices à réaliser tout au long du cours. Et pour que ce soit plus explicite, chaque fois que je vous poserai une question, il faudra mettre la vidéo sur pause. Et du coup, une fois que j'aurai posé ma question, vous ajustez un petit maracas. Quand vous entendrez le son du maracas, il faudra mettre sur pause, essayer de trouver la réponse à la question. Et quand vous reprendrez la lecture, vous verrez la réponse que je vous donnerai en vidéo. Alors, c'est parti! À votre avis, qu'est-ce que fait l'application? Pour le savoir, il vous suffit de cliquer sur le bouton démarrer. Alors normalement, ce que vous avez dû constater, c'est que l'application ne fait rien du tout. Elle démarre et elle s'arrête immédiatement. On va le faire tout de suite. Je clique sur le bouton démarrer. Il va y avoir une compilation qui est faite. On le voit ici dans il y a une petite fenêtre de sortie. Donc dans laquelle Visual Studio va expliquer l'ensemble des opérations qu'il réalise. Vous n'avez pas besoin d'y faire attention. Sachez simplement que vous avez vu un truc qui apparaissait et un truc qui disparaissait. Hein? Le truc, en fait, c'est la fenêtre console de l'application qui apparaît. Mais comme il n'y a aucune instruction dans le main, elle va disparaître immédiatement puisqu'elle n'a rien à faire. Je le refais encore une fois. On l'a vu un petit peu mieux cette fois-ci. Qu'est-ce qu'il s'est passé quand vous avez cliqué sur le petit bouton exécuter, lancer, le petit bouton vert? Eh bien, Visual Studio a pris votre code source du fichier programme.cs et il en a fait une version, il l'a traduit dans une version plus compacte, dans un langage plus compréhensible par la machine et exécutable beaucoup plus rapidement que si la machine essayait d'interpréter directement votre code source. En effet, si vous pouvez vous dire pourquoi est-ce qu'on ne reste pas directement sur le code source et pourquoi est-ce que ma machine n'est pas capable d'exécuter directement le code source, pourquoi elle a besoin de le transformer dans un autre fichier? Eh bien, tout simplement pour rendre les instructions que vous avez tapées sous forme de texte plus petites. Pour que ça prenne moins de place sur votre disque, mais surtout pour que votre machine n'ait pas besoin de réinterpréter, de relire, de recomprendre à chaque fois l'ensemble des instructions que vous avez précisées sous forme de texte. Elle est capable, votre machine, de comprendre des choses bien plus synthétiques, mais que vous auriez beaucoup de mal, vous, à écrire sous la forme de texte. Donc, c'est ça le processus de compilation. On va prendre l'application qui est écrite sous la forme de code source, donc sous forme de texte, on va le transformer dans un langage beaucoup plus compact et compréhensible par la machine et exécutable aussi beaucoup plus rapidement. Alors, ce fichier exécutable, il se trouve sur votre machine, c'est le résultat de la compilation. C'est un fichier qui possède une extension .exe. Quand vous double-cliquez dessus, ça permet de démarrer l'application. Ce que je voudrais maintenant, c'est que vous essayiez de le trouver sur votre disque. Alors, allez-y, c'est parti. Le fichier exécutable qui correspond à votre application, vous allez le trouver dans un des sous-répertoires du projet, de votre solution, l'endroit que vous avez précisé quand vous avez créé votre projet dans Visual Studio. Pour ma part, il se trouve donc dans le répertoire projet que j'avais mentionné. Puis il y a un répertoire qui a été créé avec le nom cours débutant. Puis le répertoire say my name. Ensuite, on a un répertoire bin pour binaire dans lequel j'ai un répertoire debug. Je trouve mon application ici, Say My Name. On voit qu'il est de type application. Alors, si vous voulez voir apparaître l'extension .exe, il va falloir modifier l'affichage, dire que l'on veut les détails et également voir les extensions des fichiers, voilà, saymyname.exe, de type application. Quand je double-clique dessus, je vais avoir le même résultat que lorsque j'ai compilé et exécuté mon application dans Visual Studio. La fenêtre va apparaître et disparaître immédiatement. Voilà, super. Alors, c'était un petit peu compliqué de trouver ce fichier dans l'arborescence. Sachez qu'on peut le faire de manière très simple aussi dans Visual Studio. Je sélectionne mon projet, je fais un clic droit et je demande à ouvrir le dossier dans l'explorateur de fichiers. Et là, comme par magie, je me retrouve dans la même arborescence que tout à l'heure, dans mon projet Say My Name. Je peux aller dans Bing, dans Debug, et je retrouve mon application, comme ce que j'ai fait tout à l'heure manuellement quand je l'ai recherché dans l'explorateur de fichiers. Je vais maintenant écrire du code source pour donner des instructions à mon application pour lui dire de faire telle ou telle chose. Le code source, c'est quoi? C'est en fait des ordres exprimés dans un langage de programmation, mais sous la forme de texte, qui permet de définir le comportement de votre application. Alors, le code source va être composé de différents éléments. D'abord, d'instructions. Les instructions, ce sont des mots-clés du langage de programmation, constitués de variables aussi. Les variables, ce sont des sortes d'étiquettes à laquelle on rattache des valeurs. Et également, des appels à d'autres API, Application Programming Interface. En fait, ce sont des fonctionnalités réutilisables qui sont mises à disposition soit par le système ou soit par d'autres des librairies, en fait, un ensemble de fonctionnalités qui sont mises à disposition par d'autres développeurs et que vous pouvez réutiliser dans votre application. La première chose que je souhaite faire à mon application, c'est qu'elle ne se ferme pas tout de suite, mais qu'elle attende que je tape une touche sur mon clavier pour se fermer. Je vais me placer dans mon main, dans mon code source. Et là, je vais taper une ligne de code que vous n'allez pas comprendre, c'est normal. Pour l'instant, on va la taper, on va voir ce qu'elle fait. J'expliquerai ensuite comment ça se passe et pourquoi on écrit ça. On va faire un console.readKey. Remarquez quand même que chaque fois que je tape un mot qui est connu du langage de programmation de Visual Studio, il me propose en fait une petite aide avec l'ensemble des mots-clés qui sont existants et qu'il reconnaît. Ça s'appelle l'IntelliSense. Alors, je vais faire un console.readKey. Voilà. Normalement, voilà, il va enlever le petit souligné en rouge. Si j'enlève une lettre dans le mot, il me souligne en fait ce qu'il ne comprend pas. C'est assez pratique. Console.readKey, ça va me permettre, enfin ça va demander à mon application qu'elle reste ouverte jusqu'à ce que je tape une touche. Donc en fait, elle attend que je tape une touche sur le clavier. Je vais démarrer l'application. On va voir si ça fonctionne. Là, ma fenêtre reste ouverte. Je vais taper une touche sur mon clavier. Elle se ferme. Super, ça fonctionne. Alors c'est un petit peu barbare, console.readKey avec des parenthèses au bout. Pourquoi on tape ça? Eh bien, je vous disais en introduction que le C-Sharp, c'est un langage orienté objet. En fait, chaque fois que l'on va donner un ordre à notre application, qu'on va écrire une ligne de code et qu'on va lui demander d'exécuter quelque chose, ça va se rapporter à une fonctionnalité d'un objet. L'objet, dans notre cas, c'est la fenêtre console. C'est le mot-clé console. Cette console, on va lui demander d'exécuter quelque chose. En l'occurrence, on lui demande d'exécuter la fonctionnalité readKey. Alors, on ne peut pas demander à la console de faire tout et n'importe quoi. Il y a un ensemble de fonctionnalités qui sont répertoriées pour cet objet-là. Alors, une fonctionnalité, en langage technique, ça s'appelle une méthode. Donc, il y a un ensemble de méthodes qui existent pour l'objet console. En fait, on dit la classe console. La classe console, c'est un type d'objet. Donc, techniquement, ça s'appelle une classe. Donc, dans la classe console, on va avoir un ensemble de fonctionnalités, dont la méthode readKey qui permet d'attendre qu'on tape un caractère. Comment est-ce qu'on sait, en fait, quelles sont les méthodes existantes pour la classe console? Alors, soit on va lire la documentation, je vous montrerai tout à l'heure dans la suite du cours, on ira rechercher de la documentation en ligne. Mais on peut aussi utiliser l'IntelliSense qu'on a vu tout à l'heure, Quand je tape console point, j'ai pas besoin de créer le wiki. Si je tape console point, je vais avoir dans l'IntelliSense l'ensemble des méthodes qui sont disponibles pour cette classe-là. Alors, on ne sait pas du coup forcément non plus à quoi sert chacune des méthodes, mais quand on s'arrête sur l'une, on va voir même qu'on va voir les commentaires associés à la méthode. Ici, on voit que readline, c'est lit la ligne de caractère suivante à partir du flux d'entrée standard. C'est un vocabulaire un petit peu technique, mais que vous allez, auquel vous allez vous familiariser. Si je prends readKey par exemple, obtient le caractère suivant ou la touche de fonction sur laquelle l'utilisateur a appuyé. Voilà. Donc c'est ce qu'on voulait, nous, en l'occurrence, c'était récupérer un caractère. Alors, je retape console.readKey. Il se trouve que les parenthèses derrière permettent d'envoyer des informations supplémentaires à la fonctionnalité. Pour readKey, on n'en a pas besoin. D'ailleurs, ça s'affiche hein, dans l'IntelliSense. On nous recommande de mettre une parenthèse ouvrante, une parenthèse fermante. Alors, il faut toujours mettre un point virgule à la fin de chaque ligne de code en C#. C'est comme ça. Alors, on va pouvoir faire d'autres choses à notre application quand on utilise l'objet console. Par exemple, on va pouvoir lui demander d'afficher une ligne de texte à l'écran. Et ça se fait avec la méthode WriteLine de la classe console. Donc console pour le nom de la classe, point le nom de la méthode WriteLine. Alors WriteLine tout court, ça ne suffit pas, puisqu'il va falloir dire quand même à l'application quel texte elle doit afficher. Alors, on peut afficher Hello, par exemple. Si on veut afficher Hello, en fait, il faut le passer, on appelle ça en paramètre, à la méthode WriteLine, c'est-à-dire qu'il faut passer le texte entre les accolades. Comme c'est du texte, on le met entre guillemets. On va afficher Hello, par exemple. On met un point virgule à la fin de la ligne de code et on va voir ce que ça donne. Alors, avant de voir ce que ça donne, je vais vous demander d'imaginer ce que ça va donner. On va voir si c'est juste. Essayez de deviner. Je démarre mon application. Elle n'affiche rien. Je tape un caractère. Et là, je ne sais pas si vous avez vu, elle a affiché un truc et elle s'est fermée. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les lignes de code sont exécutées dans l'ordre du haut vers le bas. Donc, on a commencé par écrire console.readKey. C'est la première chose qu'il va faire, c'est attendre qu'on tape un caractère. Et ensuite, afficher Hello dans la console et puis s'arrêter puisqu'il n'y a plus rien, plus d'autre ordre après. Donc, l'application s'arrête. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que l'application affiche Hello et attendre qu'on tape un caractère pour se fermer ? À vous de jouer. Alors effectivement, il suffit d'inverser ces deux lignes de code. Si j'écris d'abord console.writeline hello, la première chose qu'il va faire, bah, c'est ça. Et ensuite, il va faire le readKey. Si je démarre, je vois bien hello qui s'affiche. Je tape un caractère sur mon clavier et l'application s'arrête. Bravo, vous avez codé votre première application. On vient de voir comment utiliser les méthodes de la classe console. On a vu la méthode readKey, on a vu la méthode WriteLine. Maintenant, je voudrais aller un petit peu plus loin. Ce que je voudrais, c'est pas seulement que l'application me dise Hello, mais que l'application me dise Hello Stéphanie. C'est-à-dire qu'elle me demande d'abord comment je m'appelle et qu'ensuite elle me dise Bonjour Stéphanie. Alors, comment est-ce qu'on fait ça à votre avis ? Vous êtes déjà en mesure de faire toute la première partie, c'est-à-dire la première partie qui demande « Comment t'appelles-tu ?» Ensuite, il faut également que l'utilisateur puisse répondre en tapant son nom avec « Enter » et qu'ensuite l'application affiche « Bonjour Stéphanie ». Alors, je pense que pour la première étape, vous êtes capable de le faire tout seul. On l'a vu tout à l'heure, il suffit d'utiliser console.writeline pour faire afficher un texte à l'écran. En l'occurrence, nous, on veut afficher qui es-tu ? Alors, who are you ? Voilà ce qu'il faut faire. On va le faire en direct ensemble. Who are you ? Ce qui manque ensuite, c'est d'avoir. Bon, on va quand même tester. Hein. Bon, hop. Who are you? On tape une touche et c'est le README qui attend cette touche et ensuite l'application s'arrête. Moi, ce que je veux ensuite, c'est que je puisse taper mon nom à l'écran une fois qu'on m'a demandé qui j'étais. Pour ça, on va encore utiliser une méthode de la classe console. C'est console.readline. Donc c'est pas readKey où on attend un caractère, c'est readLine où on attend du texte suivi d'un retour chariot. readLine. Voilà. Voyons si ça fonctionne. Je clique sur démarrer. Who are you? Je dis Stéphanie. Je peux taper du texte, c'est déjà pas mal. Je tape le retour chariot. Bon, il m'affiche rien d'autre. C'est normal. Qu'est-ce qu'on a après? C'est simplement le readKey. Je tape sur une touche et l'application s'arrête. Ce qu'il faut maintenant, c'est que je récupère le Stéphanie que j'ai tapé sur mon clavier pour pouvoir le réafficher, par exemple avec un console.writeline ou quelque chose de ce style-là. C'est là qu'on va introduire une nouvelle notion, la notion de variable. En effet, cette information, ce texte Stéphanie que je viens de taper sur le clavier, il faut que je puisse le réutiliser. Et comment je fais, comment je le palpe, comment je fais pour le récupérer ce texte-là? Eh bien, je vais devoir le stocker quelque part, le placer dans un endroit de la mémoire de mon application. Ça fonctionne avec une variable. C'est un endroit qui porte un nom dans lequel on va placer l'information. En l'occurrence, ce que je souhaite placer là dans une variable, c'est le Stéphanie que j'ai tapé sur mon clavier. Mon console.readline, en fait, a une fonctionnalité supplémentaire. Il n'attend pas juste du texte. Il est aussi capable de me renvoyer le texte que j'ai tapé et en l'occurrence de le placer dans une variable. Pour faire ça, il faut faire une affectation. Une affectation, c'est encore un gros mot, c'est associer une variable avec un contenu. Ça se fait de la manière suivante, c'est affiché ici sur les slides. Name, string name égale, c'est ça l'affectation, c'est je dis que la variable qui porte le nom name est égale à console.readline, c'est-à-dire au résultat de console.readline. Ce qu'il a récupéré en faisant le readline, c'est-à-dire ce que j'ai tapé sur mon clavier, qui est le texte Stéphanie. Donc normalement, dans la variable name, il y a Stéphanie, la valeur sous forme de chaîne de caractères Stéphanie. Il y a encore autre chose qu'il faut spécifier à ma variable, c'est le type de la variable. En l'occurrence, moi j'attends une chaîne de caractères et ça se dit string en C# pour typer une variable sous la forme d'une chaîne de caractères. Alors un type de variable, si vous voulez, c'est un petit peu comme un type de cellule dans Excel. À un moment donné, votre cellule dans Excel, elle ne va pas se comporter de la même manière si c'est une cellule de type texte, une cellule de type monétaire ou une cellule de type entier numérique, etc. Donc là, c'est pareil. Alors, je ne vous ai pas expliqué non plus ce que j'affiche là juste au-dessus en vert, c'est un commentaire. C'est-à-dire c'est une ligne qui n'est pas du tout interprétée par le compilateur. Ça permet juste de mettre de la documentation dans notre code. Voilà. Donc ici, j'ai rajouté le commentaire. Ligne chaîne de caractères terminée par retour chariot. Il suffit de mettre slash slash au début d'une ligne pour que tout le reste de la ligne soit en commentaire et ne compte pas dans les instructions et dans les lignes de code. Et en principe, ça s'affiche en vert. Alors, à vous maintenant. Affichez bienvenue Stéphanie ou bonjour Stéphanie ou nice to meet you Stéphanie. Enfin, pas Stéphanie, hein. Il faut que ça affiche votre propre nom à vous. Alors, est-ce que vous avez trouvé comment faire? C'est un petit peu difficile, je ne vous ai pas tout dit. Il faut essayer de chercher un petit peu. En fait, pour afficher nice to meet you votre nom, il y a une première partie qui est assez simple. Le nice to meet you, vous êtes capable de le faire. Il suffit d'écrire console.writeline, nice to meet you, entre guillemets. Ensuite, pour afficher le nom qui est stocké dans la variable name, il vous suffit à la place de passer le texte entre guillemets, Il vous suffit de placer la variable name en paramètre à console.WriteLine. Il y a plusieurs manières de réaliser cette opération. Soit on le fait en deux lignes de code console.WriteLine, soit en une seule. Il y a des opérateurs qui vous permettent de concaténer des chaînes. Là, en l'occurrence, nice to meet you plus name, ça va constituer une seule chaîne, nice to meet you, blablabla, Stéphanie. Et du coup, on a besoin que d'une seule instruction console.WriteLine. On va mettre en œuvre ce code dans la petite application. Donc, string name égale console.readLine. Donc là, je viens de déclarer ma variable name, c'est-à-dire que la première fois que je l'utilise, je vais préciser son type juste devant le nom de la variable. Ensuite, je vais pouvoir la réutiliser dans le reste de ma méthode. La méthode, c'est-à-dire, ici, on est dans la méthode main. Et voilà, donc je vais ensuite afficher la variable name à l'écran, console.WriteLine. Je vais dire simplement nice to meet you name plus name. Le point virgule. J'ai toujours le read key à la fin pour qu'on ait le temps de voir ce qui s'affiche. Je vais démarrer l'application. Who are you, Stéphanie? Nice to meet you, Stéphanie. Il manque un petit espace entre le nice to meet you et la variable Stéphanie que je vais rajouter tout de suite. Pour approfondir le concept de type de variable, on va enrichir notre petite application. Et cette fois-ci, on va demander l'année de naissance de l'utilisateur. Donc l'application va lui demander quelle est son année de naissance et l'application va calculer du coup l'âge de la personne. On a vu pour l'instant un type de variable qui était le type texte. Quand je dis chaîne de caractères, c'est texte en fait. Hein. Pour simplifier, on va dire que c'est la même chose. Alors la première chose à faire, c'est de poser la question à l'utilisateur pour qu'il rentre son année de naissance. À vous de jouer. Facile jusque-là, il suffit de faire un console.WriteLine. Quelle est votre année de naissance ou when were you born? Ensuite, il faut récupérer l'année de naissance saisie dans une variable. Ça aussi, vous savez le faire. Allez-y. C'est exactement la même chose que tout à l'heure. On va déclarer une variable. La première fois qu'on l'utilise, en fait, on la déclare. Quand on déclare une variable, on donne son type. Donc, string, c'est le type de la variable. Le type de la variable est toujours précède toujours le nom de la variable lors de sa déclaration. String year égale console.readLine. Donc, c'est vraiment la même chose que tout à l'heure pour le prénom. Sauf que cette fois-ci, on a appelé notre variable year. En principe, on essaie de donner un nom qui correspond au contenu de la variable. Ensuite, ce qu'on va vouloir faire, c'est une soustraction entre l'année courante et l'année de naissance qui a été saisie par l'utilisateur. Mais on va être un petit peu embêté. Tout comme dans une cellule pour Excel, si on veut faire des calculs, on est obligé d'avoir des variables de type numérique. Or, notre variable year, elle est de type texte, de type string. Donc si on veut faire des calculs et faire une soustraction entre 2013 ou 2014 et cette année-là, il va d'abord falloir transformer, convertir notre variable string en une variable numérique. Comment on fait ça? Eh bien, tout simplement, on va déclarer une nouvelle variable d'un type entier. Le type entier en C#, c'est int, comme integer. Donc, on va écrire int, un nouveau nom de variable, on va l'appeler cette fois-ci yearNum, comme numérique, égale, et là, vous ne pouvez pas deviner, hein, je vais vous dire exactement ce qu'il faut faire, égale la conversion de notre variable de type string. Et pour ça, on utilise l'objet int et la méthode parse de l'objet int, int.parse. On lui passe en paramètre la variable de type string et on récupère un entier. Donc, le parse, la transformation se rapporte à l'objet int, donc ça renvoie un int, et donc c'est cet int qu'on va stocker dans la variable yearNum. Si vous n'avez pas tout compris, c'est pas grave, hein. Vous n'êtes pas obligé de tout retenir en même temps non plus. Alors, on va écrire ça dans Visual Studio, dans notre code source, Et puis, on va voir ce que ça donne de rentrer une valeur non numérique. On va voir si s'il n'y a pas un petit souci. Alors, vous voyez, le code est déjà ici. Console.WriteLine, when were you born? String year égale console.ReadLine. Donc, il va simplement nous demander notre année de naissance. Il va la transformer dans YearNum. Et ensuite, il fait un ReadKey et il sortira de l'application. Je commence. Who are you, Stéphanie? When were you born? 1974. Il se passe rien, j'ai tapé mon année et il attend simplement que je tape encore un caractère, hein, c'est le readKey pour terminer l'application. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je ne rentre pas une année au format numérique mais que je rentre du texte? Allez-y, essayez. Where are you, Stéphanie? Nice to meet you, Stéphanie. When were you born? Alors, je vais taper Toto. Et là. Ah, malheur, il s'est passé un truc bizarre qui ne s'est pas passé jusqu'à présent normalement. Il y a eu une erreur d'exécution. C'est un bug de notre application. Pourquoi? Alors, déjà, on remarque que Visual Studio nous dit, oh là là, il s'est passé un truc anormal, il y a une exception. Une exception, c'est une erreur grave qui ne s'est pas gérée. Donc, je vais lui dire arrêtez. Et là, il va se positionner sur la ligne de code qu'il surligne en vert pour nous dire qu'il y a eu un souci sur cette ligne-là. Pourquoi il y a eu un souci? Eh bien, tout simplement parce qu'on essaie de transformer le contenu de la variable hier dans un entier. Mais il se trouve que hier, ce n'est pas une valeur numérique. Donc, de toute façon, on ne peut pas le transformer en entier. C'est pareil que dans une cellule Excel. Si vous avez une cellule au format numérique et que vous mettez du texte dedans, il va vous faire une erreur. Là, c'est exactement la même chose. Remarquez en passant que lorsque je positionne mon curseur sur la variable hier, j'ai une petite aide de Visual Studio qui m'affiche le contenu de la variable hier. On voit bien ici que c'est Toto, entre guillemets, parce que c'est une chaîne de caractères. Pour arrêter l'application, on clique sur le petit bouton stop, hein, tout simplement. Alors, on a vu comment ça se passait quand on avait un bug, une erreur d'exécution dans notre application. On verra qu'on peut résoudre ce problème pour vérifier avant de faire la conversion si notre variable hier est bien une variable au format numérique. Et on verra ça plus tard, d'accord? Pour l'heure, ce qu'on souhaite faire, c'est faire notre soustraction. Comment ça marche? Eh bien, il suffit de déclarer une nouvelle variable age qui est de type entière, elle aussi, donc int age égale l'année courante, 2013-2014, moins YearNum, qui est donc l'année qui a été saisie et convertie au format numérique. Alors, ça va marcher, mais on peut faire mieux. Comment est-ce qu'on fait pour faire mieux? À votre avis, qu'est-ce que ce serait mieux que ce qui vient d'être que ce qui vient d'être fait? Ce qui serait mieux, c'est qu'on ne fixe pas l'année 2013, comme je viens de le faire ici, mais qu'on mette l'année courante, tout simplement, pour que le code qu'on écrit soit valable et juste, même encore dans 2 ou 3 ans. Donc, il faut que l'année corresponde à l'année courante du système. Et pour ça, on a une API qui est disponible, DateTime, et on peut récupérer l'année courante. Ça se fait en utilisant datetime.now pour dire maintenant. .year, donc c'est l'année courante, moins YearNum, donc on soustrait l'année qui a été saisie, et on la récupère dans la variable age qui est de type entière. À vous maintenant, afficher l'âge de la personne. Ça aussi, maintenant, vous savez le faire, on l'a vu tout à l'heure. Il suffit d'écrire console.brightline, you are age. Alors là, j'ai mis point to string, mais vous n'êtes même pas obligé. Vous pouvez faire simplement you are, entre guillemets, plus age, puisqu'il y a une conversion implicite cette fois entre la valeur numérique vers une chaîne de caractères. Bon, c'est un petit peu compliqué ce que je suis en train de vous dire. Sachez qu'on peut convertir n'importe quel objet en chaîne de caractères, et c'est ce qu'on fait ici avec la variable age de type numérique. Je vais écrire tout ça dans le code. On va faire mieux, on va faire un copier-coller. Voilà. Je vais rajouter le console.readkey, sinon. Readkey. Je vais faire F5. Ah oui. Là, j'ai plus que la partie sur là, j'ai enlevé la partie où je saisis mon nom, mais on a bien compris comment ça marchait maintenant. Donc, quand suis-je née en 1974? Je me dis que j'ai 40 ans, et oui, malheureusement. Donc, ça fonctionne très bien. Et voilà pour notre petit programme d'exemple. Retournons dans les slides. Ce que je souhaite faire maintenant, c'est vous apprendre comment on peut afficher un message différent en fonction de l'âge qu'on a. On peut décider que en dessous de 40 ans, on est jeune, au-dessus de 40 ans, on est vieux, et on a envie de faire un petit message personnalisé à l'utilisateur en fonction de ça. Alors, comment ça fonctionne? On utilise l'instruction if-else. If, ça permet de tester une expression booléenne, encore des petits mots barbares. On va préciser une condition suite au if, entre les parenthèses qui suivent le if. En l'occurrence, ici, on va tester la variable age. On va tester si elle est inférieure à 40. J'aurais pu tester si une variable est égale à telle ou telle valeur. On peut faire n'importe quelle. On peut tester n'importe quoi du moment que le résultat est vrai ou faux. Si le résultat est vrai, il va exécuter le code qui se situe entre les parenthèses du if. Et sinon, il va exécuter le code qui se situe sous les parenthèses, entre les accolades sous le else. Alors à vous, écrivez un petit message pour les jeunes, entre guillemets les jeunes, hein, parce que je suis jeune quand même à 40 ans. Et écrivez également un petit message pour les vieux, en mentionnant à chaque fois le nom de la personne. Et voilà, c'était pas très très compliqué, mais quand même, il y a différentes notions qui se rajoutent à ces concepts de base. Donc, dans le premier cas, si on a moins de 40 ans, on affichera « You are lucky, you are long lucky, Stéphanie ». En l'occurrence, ce n'est pas le cas pour moi puisque j'ai plus de 40 ans. Moi, ce qui s'affichera, c'est « You are experienced, Stéphanie ». Et non, je ne suis pas vieille, je suis expérimentée. Voilà. Ça fait beaucoup de choses quand même pour une première initiation. On va s'arrêter là par rapport au code. Ce que je souhaite vous montrer encore, c'est que dans Visual Studio, on peut exécuter du code pas à pas, c'est-à-dire instruction après instruction, ligne de code après ligne de code, et voir directement dans Visual Studio comment le code se comporte, quelles sont les valeurs qui se trouvent dans les différentes variables que vous avez déclarées. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je vais tout simplement reprendre le code complet à ce stade. Donc, je prends tout ce qui est dans mon main. Je fais un CTRL-C. Et un CTRL-V. Je réduis un petit peu la taille de la police de caractère. On va exécuter ce code, mais cette fois-ci, on va l'exécuter en mode pas à pas. Comment est-ce qu'on fait pour exécuter le code en mode pas à pas, c'est-à-dire ligne de commande après ligne de commande? Soit on utilise la touche de raccourci F11 et à ce moment-là, on va démarrer tout de suite en mode pas à pas. Si je fais un F11 ici, vous voyez, je vais avoir un petit curseur jaune qui va se placer. Et chaque fois que j'appuie sur F11, je vais avoir l'instruction suivante qui sera exécutée. Donc là, normalement, il a écrit console.writeline, who are you? Je clique sur ma console et je vois apparaître effectivement le who are you. F11, il faut que je reclique quand même à chaque fois. Je vais réduire ma fenêtre. Ça, on verra les deux en même temps. Who are you? F11. Donc là, il fait le console.readline. Donc ici, j'ai plus la main dans Visual Studio. Vous voyez, il n'y a plus de petites flèches. C'est parce qu'il attend que je tape mon nom. Donc, je suis Steph. Je retombe à nouveau dans Visual Studio. Il est sur la ligne console.writeline. Nice to meet you. Donc, tant que c'est en jaune, en fait, ça n'a pas encore été exécuté. Hein. Donc, je vais faire F11. Nice to meet you, Steph. Writeline, entrez votre année de naissance. Là, il est sur le readline. Et je vais taper mon année de naissance 1974. Je tape Enter. Je retombe ici dans Visual Studio. Et je vais, par exemple, pouvoir me promener sur les différentes variables qui ont été déclarées et affectées jusque-là. Par exemple, si je me place sur Name, on voit bien ici, hop, que j'ai Steph qui apparaît. Si je me place sur Année, j'ai 1974. Alors, je peux me placer n'importe où, hein, sur Année. Partout où je l'utilise, je peux aller lui demander quelle valeur il a. Il y a les petites... les guillemets donc qui indiquent que c'est une chaîne de caractères. F11, on va continuer. Cette fois-ci, AgeInt. Remarquez qu'ici, dans AgeInt, j'ai 1974 sans les guillemets, justement, parce que c'est un entier. Je fais la soustraction. Dans Age, j'ai bien 40. Et cette fois-ci, je fais le console.writeline. Il me dit you are 40. Très bien. On va voir maintenant comment il va se comporter avec le if. If age inférieur à 40, c'est pas le cas puisque c'est égal à 40. Donc je passe dans le else. Il me dit console.writeline you are experienced et je rajoute mon nom you are experienced Steph. Et oui. On tombe sur le console.readKey. Là, il rend la main à l'application puisqu'il attend que je tape un caractère. Il retourne dans la collade fermante, F11 et c'est fini. Voilà, on a exécuté tout notre code applicatif en pas à pas. Vous avez déjà appris vraiment pas mal de choses dans ce premier module. Il me semble qu'on va pouvoir s'arrêter là pour cette partie. Voyons voir. Effectivement, vous retrouvez le code téléchargeable en pièce jointe à cette vidéo, ainsi que les slides évidemment. Et puis on se retrouve très vite pour le module 2. Vous avez le droit d'aller boire une bière en attendant.